à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 18h.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
16h, temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal du 12 juin, c'est l'une des plus importantes catastrophes aériennes de ces dernières années. En Inde, il y a quelques heures, un avion de ligne avec à son bord 242 personnes s'est écrasé juste après son décollage. L'avion s'est écrasé sur une zone habitée. Plusieurs pays occidentaux demandent expressément à l'Iran d'arrêter tout projet d'armement nucléaire puisque l'Iran vient d'annoncer la construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium. Dans ce journal aussi, il voulait participer à une marche internationale pour Gaza au départ de l'Égypte. Un peu plus de 200 militants pro-palestiniens ont été arrêtés par la police égyptienne. Et puis enfin, la Nouvelle-Calédonie, le leader indépendantiste Kanak, Christian Théin, était incarcéré en France métropolitaine. Il vient d'être remis en liberté. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'avion aurait dû atterrir ce soir à Londres. Venons-en à ce terrible accident aérien en Inde. Un Boeing de la compagnie Air India s'est écrasé juste après son décollage de l'aéroport international d'Ahmedabad, dans le nord-ouest du pays. 242 personnes se trouvaient à bord de l'appareil lorsqu'il a touché le sol sur une zone habitée. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
Le bilan est encore provisoire, mais il y aurait plus de 290 victimes, selon un dernier bilan.
Oui, selon les autorités indiennes, une personne à bord de l'appareil aurait cependant survécu. Tous les autres passagers et membres d'équipage sont morts, et en s'écrasant sur un bâtiment situé non loin de l'aéroport, l'avion aurait fait plusieurs dizaines de victimes supplémentaires, d'où ce chiffre encore provisoire de plus de 290 morts. L'appareil a décollé à 13h39 heure locale à destination de l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni. Juste après le décollage, pour une raison encore inconnue, l'équipage a lancé un message de détresse et sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit l'avion perdre très vite de l'altitude avant de s'écraser sur un bâtiment qui serait une école de médecine. Je vous le disais, aucun élément pour l'instant sur l'origine de l'accident. Le train d'atterrissage était sorti au moment de la catastrophe, mais l'on n'en sait guère plus pour le moment. Le nombre de victimes au sol pourrait encore augmenter dans les heures qui viennent. L'aéroport d'Ahmedabad est le 7e aéroport le plus fréquenté d'Inde et il est situé dans une zone urbaine, une zone résidentielle où se trouvent également de nombreux bureaux.
Et depuis, la France a proposé son aide aux autorités indiennes et on apprend à l'instant que des enquêteurs américains vont se rendre sur place. Merci Daniel Valo pour toutes ces précisions. Le nucléaire iranien, l'Union européenne, mais aussi la France appellent Téhéran à la retenue, car l'Iran affirme vouloir construire un nouveau site d'enrichissement nucléaire et ainsi augmenter sa production d'uranium. Une annonce qui permet de défier les États-Unis, alors que des discussions, des pourparlers à ce sujet sont prévus dans 3 jours avec l'administration américaine pour éviter que l'Iran manipule davantage l'armement nucléaire. Quelle est aujourd'hui la position de Donald Trump dans ce conflit avec l'Iran? Réponse de David Rigoulet-Rose, il est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
Trump, depuis le début, veut parvenir à un accord. Il ne souhaite pas une opération militaire, qu'il n'a jamais exclue, mais en espérant qu'elle n'aurait pas lieu. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Donald Trump est obligé de reconnaître que l'obstruction iranienne, en fait, risque de le conduire à cette opération militaire qu'il ne souhaite pas mener, clairement. Il y a la position israélienne qui sera contentée par ce principe de nécessité, même s'il y a beaucoup évidemment d'attendus incertains dans le cas d'une opération militaire, parce que de toute façon il y aura une réponse iranienne à la fois sur Israël et évidemment les Américains ne pourront pas ne pas réagir, et puis il y a toutes les bases américaines qui sont menacées. Donc on approche du moment de vérité.
L'Iran doit renoncer de manière crédible à tout projet d'armement nucléaire. Autre réaction d'un pays occidental, l'Allemagne, en l'occurrence. C'était le chercheur David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, qui était l'invité à la mi-journée des RFI. Des dizaines de militants de plusieurs nationalités sont arrivés en Égypte pour participer à une marche internationale vers Gaza. Ces militants ont été interpellés, arrêtés par les autorités égyptiennes. Certains ont ensuite été expulsés, d'autres relâchés. C'est ce que fait savoir aujourd'hui l'organisme à l'origine de cette marche. Malgré tout, la marche internationale continue. Des milliers de participants sont déjà arrivés en Égypte, prêts à partir pour Arish demain et continuer à pied vers Rafah, précise le collectif. Sur le continent africain, après avoir pris le pouvoir par la force au Mali, le général Assimi Goïta pourrait bientôt devenir président malien sans limite de temps, car un projet de loi adopté hier en Conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans élection, jusqu'à la pacification totale du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger et le Burkina Faso, précisent les autorités maliennes.
Le journal en français facile.
18h passées de 6 minutes dans l'actualité européenne. Tout d'abord en Espagne, ce nouveau coup dur pour le Premier ministre espagnol, socialiste Pedro Sanchez, le numéro 3 du PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, Santos Cerdán, a annoncé aujourd'hui sa démission. Il démissionne après sa mise en cause dans une affaire de corruption qui empoisonne depuis des mois le chef du gouvernement espagnol. Un rapport de police révèle l'existence d'indices concernant la possible participation du secrétaire de l'organisation du PSOE, le député Santos Cerdán, dans l'attribution de contrats publics dans laquelle il aurait probablement touché en échange de l'argent. Parlons à présent de cette maladie transmise à l'homme par une simple piqûre de moustique, le chikungunya. Maladie rarement mortelle, elle provoque tout de même chez les êtres humains de la fièvre, des maux de tête, des envies de vomir, la nausée ou encore de la fatigue. Dans l'océan Indien, sur l'île française de Mayotte, 901 personnes sont infectées par le chikungunya. C'est le tout dernier bilan des autorités de santé sur l'île. Chiffre en progression depuis quelques jours et sans doute, Manon Hiller, sous-estimé d'après le directeur de l'Agence régionale de santé.
Si le décompte officiel est en dessous de la barre du millier de cas, à l'ARS, on le reconnaît, on serait sûrement au-dessus des 1500 contaminations. Beaucoup de patients qui consultent ne bénéficient pas d'un prélèvement sanguin de confirmation pour éviter d'engorger les laboratoires. Pour l'instant, deux foyers d'épidémie touchent principalement l'archipel, la ville de Mamoudzou et Petite Terre. Et face à la hausse du nombre de cas, la vaccination, elle, stagne. L'archipel dispose de plus de 1400 doses, mais seulement une quinzaine de personnes en ont reçu une. La faute à un manque d'adhésion de la population à la suite d'effets indésirables graves survenus chez des plus de 65 ans sur l'île de la Réunion. Mayotte subit aussi encore les conséquences du cyclone Chido qui a ravagé l'île il y a presque 6 mois. Le seul hôpital fonctionne en service réduit. Et pour le directeur de l'ARS, le docteur Albarello, deux risques planent.
C'est le risque, un, que les personnels soient malades aussi, par le chikungunya, et deux, c'est effectivement d'avoir un nombre de lits occupés fortement par le chikungunya. Si on avait une dizaine de cas graves, on ampute quasiment 80-70% des places de réanimation.
En cas de besoin, l'ARS prévoit d'évacuer les patients les plus sérieux vers l'île de la Réunion.
Manon Hiller dans votre journal en français facile. Il retrouve la liberté. Le leader indépendantiste kanak, Christian Théin, a été remis en liberté aujourd'hui. Christian Théin était en détention provisoire derrière les barreaux depuis maintenant plus d'un an dans l'enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024. Les trois juges d'instruction du tribunal de Paris chargés des investigations avaient d'abord ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, mais le parquet s'y était opposé, estimant que M. Théin avait joué un rôle central dans les émeutes qui ont éclaté le 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Émeutes qui, rappelons-le, avaient fait 14 morts. Il vient donc de retrouver la liberté aujourd'hui. RFI à Paris, il est 18h10.